Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique.
Là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans l'Happy Hour.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est l'heure de l'émission Happy Hour. Le mois de mai, c'est synonyme normalement de beau temps. Là, il y a un peu quand même pas mal de nuages, il faut le dire. Nez qui coule avec le pollen, la gorge qui gratte, bref, le bonheur. Hein. Et surtout, c'est le début des festivals, des balades, des fêtes en extérieur. Et donc, dans cette émission, on va justement parler d'une fête qui a lieu pour la première fois en Lozère. C'est la fête de l'écotourisme dans les gorges du Tarn. Et pour passer un bon moment, nous avons avec nous Eric, le chroniqueur. Salut.
Oui. Bonjour les gens.
Bon, je te demande pas de quoi on va parler aujourd'hui. C'est une surprise, c'est ça?
Oui, c'est ça. Je vais montrer comment on peut rebondir.
Ouf. Pour parler de ce thème, donc de l'écotourisme, on a Hugo, bienvenue, salut.
Merci de l'invitation, bonjour à tous.
Tu travailles à Saint-Enémy et pour l'organisation de ce... à Saint-Enémy, à la mairie de Saint-Enémy.
C'est ça, au sein de la commune Gorge du Tarn-Causse.
C'est ça, et tu organises cet événement.
Voilà.
On a aussi avec nous Charles Duterte, salut.
Bonjour à tous.
Tu es animateur et coordinateur naturaliste à l'association Lozérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Exactement.
L'ALEP, ce sera plus simple pendant l'émission de dire l'ALEP. Voilà, on va commencer avec une présentation de Saint-Enémy et de Station Verte, et puis aussi de l'organisation de cet événement et l'ALEP. Avant de parler donc en détail de la programmation, Saint-Enémy, c'est labellisé Station Verte depuis quelques années, c'est ça Hugo?
Voilà, c'est ça, c'est un label qui est en partenariat avec le village de Saint-Enémy à la base, et donc maintenant avec la commune, puisque la commune est nouvelle depuis 2017. Et donc depuis quelques années, ce label est au sein du village, et pour la première année, il y aura la fête de l'écotourisme à partir de demain.
Ben demain,
voilà.
ça va aller vite. Et donc, qu'est-ce que c'est exactement? Ça consiste en quoi le label Station Verte?
Alors, le label Station Verte, c'est un label qui promeut l'écotourisme. Donc, c'est une forme de tourisme durable, centré sur la découverte de la nature, de la sensibilisation à l'environnement. Pardon. Et donc, la fête de l'écotourisme rentre dans ce cadre-là en proposant des animations durant un bon mois et demi, autour de découverte de la faune et de la flore, des paysages naturels qui nous entourent.
Le Station Verte, du coup, c'est une labellisation qu'on a partout en France. Il y a pas mal de communes qui l'ont, mais pour l'avoir, je suppose qu'il y a plusieurs choses à faire, un cheminement pour pouvoir être labellisé. Est-ce que tu sais un peu comment ça se passe?
Oui, alors pour le coup, moi je suis arrivé après l'obtention de ce label, mais oui, effectivement, il y a tout plein de points, de facteurs à respecter pour pouvoir être labellisé Station Verte. Après, dans le département de la Lozère, effectivement, il y a plusieurs villages et communes qui sont labellisés Station Verte.
Il y en a 10, je crois.
Espagnac, peut-être un Florac aussi. Mm. Et donc après, donc il y en a pas mal dans le département, effectivement. Oui.
Alors qu'est-ce que Saint-Enémy? Bon, je sais que tu es arrivé l'année dernière, donc c'est ça, 2019 ou l'année dernière?
L'année dernière, pardon.
Sur ton expérience déjà en un an, la Station Verte, ce label sur Saint-Enémy, toi, tu le vois comment?
Eh bien déjà, avec la pluralité de choses qu'il y a à faire autour de Saint-Enémy, je veux dire les gorges du Tarn, les Causses, il y a tellement de choses à découvrir au niveau naturel, sensibilisation de l'environnement, que forcément il y a plein de choses qu'on peut mettre en place dans ce cadre-là, et c'est super quoi.
Qu'est-ce que toi, en arrivant ici à Saint-Enémy, tu préférais? Qu'est-ce qui t'a choqué, c'est peut-être pas le bon terme, mais qu'est-ce qui t'a marqué en arrivant ici concernant l'écotourisme justement et tout ce milieu-là?
Le nombre d'associations prenant justement la défense de l'environnement, la sensibilisation, la faune et la flore. Je trouve qu'il y en a une grande quantité dans le département et dans le territoire. Et donc ça, pour le coup, ça m'a vraiment surpris quand j'ai commencé à faire les démarches justement pour cette fête de l'écotourisme. Ouais.
D'accord. Charles, tu hausses un peu la tête. Hoche, pardon, je vais y arriver, moi aussi. Tu travailles partout, un peu sur le département, avec l'ALEP, à Saint-Enémy. Qu'est-ce que toi, tu remarques au niveau de la biodiversité et de tout cet écosystème qu'on voit?
Eh ben, je dirais que les gorges du Tarn ont quelque chose d'assez spécial, puisque effectivement, il y a vraiment deux climats entre le fond des gorges, l'Écosse, et ça permet à une multitude d'espèces d'habiter des milieux tout à fait différents suivant là où on va se positionner au niveau de la commune, si on reste en fond de vallée ou si on prend un peu de la hauteur, si on fait de la falaise, des choses comme ça, on va croiser différentes espèces qui apprécient différents types de milieux, et ça donne vraiment une richesse à ce secteur-là, quoi.
À Saint-Enémy, plus précisément, est-ce que tu as des exemples à nous donner de biodiversité un peu particulière ou spécifique ?
Eh ben, les gorges du Tarn sont très connues pour les vautours, notamment, les 4 espèces de vautours qui les fréquentent. C'est des très très bons sites pour bon nombre de rapaces, en réalité. Mais aussi, ben là, il y a tout un travail qui est en cours, notamment sur le crave à bec rouge, qui est un petit corvidé assez atypique. Voilà. Mais même en termes d'insectes, de reptiles, on retrouve le plus grand lézard de France dans ces secteurs-là. C'est pas forcément très connu, mais...
Comment il s'appelle, ce plus grand lézard ?
Le lézard osselet.
D'accord. Eric ?
Non, c'est pour savoir, parce que justement, le but, je suppose que c'est pour pouvoir développer le tourisme, mm-hmm. d'avoir ce genre de label. Est-ce que c'est pas trop perturbant, justement, pour les écosystèmes ?
Bah, je pense que c'est essentiel de travailler sur ce sujet-là, parce que, quoi qu'il en soit, le tourisme vert, on va dire, il est plutôt...
C'est de la sensibilisation.
Oui, mais c'est très en vogue, le tourisme vert. Et le fait d'avoir des labels, on imagine aussi que derrière, il peut y avoir justement une réflexion sur comment accueillir correctement tout ce public qui va venir pour ne pas trop empiéter sur des espaces naturels ou sur des espèces sensibles ou des choses comme ça.
Mais ça, justement, c'est ce que vous faites un peu aussi à l'ALEP. On va présenter un peu l'association. C'est en partie une des parties de vos actions, de sensibiliser les gens et tout ça.
Oui, bah, l'ALEP, en fait, tout est dit dans le nom de l'association, hein, Association Lozérienne d'études et de protection de l'environnement. Donc effectivement, il y a un volet très scientifique, avec des études, des protocoles, des choses comme ça. Et puis il y a un volet vulgarisation de cette science, et puis sensibilisation à l'environnement, ça c'est plutôt ma partie à moi. Et du coup, ça fait partie aussi du métier, voilà, que d'essayer d'avoir des pratiques responsables dans les espaces qu'on fréquente, quoi.
Toi, ça fait combien de temps que tu es à l'ALEP ?
Eh ben, j'ai depuis 2019, avec une petite période de coupure, mais depuis 2019.
D'accord. Eric ?
Et donc, quand tu fais de l'animation, c'est quoi exactement l'animation ?
Eh ben, ça dépend. ça dépend du public auquel on s'adresse. Tout à l'heure, on sera amené à parler de la fête de l'écotourisme. Là, c'est le public famille, grand public. J'ai proposé plusieurs sujets. Puis en fait, là, on va travailler sur les oiseaux et les reptiles, pour donner une idée. Mais en fait, on va aussi, par exemple, avec les écoles, sur tous les sujets de développement durable. La gestion des déchets, par exemple, ça fait partie aussi de mon taf.
Oui, je suppose que l'écotourisme aussi, c'est proposer un tourisme vert aux touristes qui viennent dans la région et aux habitants aussi. Il ne faut pas oublier ceux qui sont là. Mais ça rejoint un peu la question de tout à l'heure d'Eric. Est-ce que l'écotourisme, ça amène de plus en plus de gens ? Ça, c'est en vogue, hein, mais... c'est un peu du coup à double tranchant, parce que vu que c'est en vogue, il y a de plus en plus de gens qui viennent sur le territoire pour ça. Est-ce que du coup ça fait pas trop de monde aussi d'un coup sur le territoire ?
Alors c'est vrai que ce genre de tourisme durable, on va dire, attire du monde et du public depuis un certain nombre d'années déjà. Après, ça dépend en fonction des animations qu'on propose aussi. Si c'est de la sensibilisation, de la découverte, ça se fait souvent en petits groupes. Donc il n'y a pas de la gêne ni pour la faune ni pour la flore qu'on peut rencontrer sur son chemin ou choses comme ça. Donc dans ce cadre-là, je ne pense pas qu'il y ait de soucis.
Non, je vois pas de problème à ça. Après, c'est vrai que certaines peut-être pratiques peuvent être un peu plus sujettes au dérangement, mais là, dans le cadre de ce qui est proposé, il y a zéro impact, quoi.
Est-ce qu'on va parler plus globalement du tourisme avant de parler du programme de la fête ? Le tourisme à Saint-Enémy, on le sait, c'est quand même vachement important. Chaque fois qu'on y va entre juin, août, septembre, la population, c'est impressionnant. Quoi. On peut même plus aller tranquillement dans les ruelles, c'est assez compliqué.
C'est compliqué pour se déplacer, pour se garer.
C'est un peu compliqué pour tout.
Voilà, c'est ça. Surtout, on va dire, à la période estivale, là où il y a le pic entre juillet et août. Après, le but justement de ce genre de manifestation et de label, c'est aussi de proposer des animations en dehors de ces pics de fréquentation, on va dire, donc sur les ailes de saison, donc de mai à juin et aussi de septembre à octobre, pour finalement proposer un agenda d'animation sur 6 mois et non plus sur 2 mois.
D'accord. Oui, c'est pour éviter justement qu'il y ait aussi...
qu'il y ait une trop forte fréquentation.
Et proposer aux habitants...
aussi, oui, bien sûr, parce que... Le but aussi, c'est de proposer des manifestations, des animations, pas seulement aux touristes, mais aussi aux habitants qui sont là à l'année.
Est-ce que le développement de l'écotourisme et de cette fête, en Lozère, c'est quand même très présent, mais ça a encore du mal à démarrer fortement. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure. L'écotourisme à Saint-Amy, avec le label, par exemple, c'était pas...
Nous, à la commune Gorges du Tarn-Causse, ce sera la première année qu'on fait cette manifestation. Alors après, pour tout vous dire, je ne sais pas si les autres communes labellisées Station Verte font aussi cette manifestation cette année. Après, au niveau national, j'ai vu qu'il y avait plusieurs communes et villages qui faisaient ce genre d'animation. Mais le but, c'est aussi de développer ce genre de point de vue, on va dire, pour les touristes de passage et pour les habitants, pour leur permettre de découvrir et redécouvrir leur territoire.
Au niveau de la LEP aussi, quand on parlait des petits groupes, je suppose que les animations aussi, c'est fait exprès, vous essayez de faire des petits groupes ou ça dépend
Ça va dépendre des thématiques, mais généralement, là, c'est vrai qu'on fixe une jauge, généralement, entre 20 et 30 personnes, suivant les animations, mais 20 personnes, c'est déjà bien, quoi, en général.
Vous êtes combien à la LEP ?
On est 2 salariés, puis il y a toute une équipe d'adhérents derrière aussi.
D'accord, de bénévoles, enfin adhérents, c'est...
Ouais, adhérents bénévoles, effectivement, qui font vivre aussi l'association.
Ok, ça marche. Eh ben, on va faire une petite pause musicale avant de parler en détail du programme de cette fête de l'écotourisme avec une chanson. Bon, ça dit tout, cette chanson, évidemment. C'est l'écologie, sauvons la planète du groupe Assassin. C'est du rap, voilà, évidemment. On écoute ça tout de suite.
L'envergure des problèmes, ceci n'est pas une demande mais un besoin pour que l'espoir revienne. L'homme organise sa destruction, analysons la situation pour que vous puissiez comprendre ma vision. Un trou dans la couche d'ozone, cela devient banal de parler d'ozone, mais sans elle personne n'est autonome car l'ozone nous protège du soleil. Et sans un radical changement dans les comportements, ni la prévention ni les conseils ne stopperont cette catastrophe naturelle. Naturelle, naturellement pas, car les victimes sont les fautives cette fois. Comment survivre dans un monde contrôlé par l'économie, où les problèmes écologiques sont délaissés, préférons le profit. Pas respecter la nature, sachant que si l'air est pur, il peut y avoir un futur. Mais déjà Mexico, Tokyo, New York agonise, et bientôt toute la planète sera compromise. Prenez conscience, pensez à la prochaine génération. Le futur de la planète dépend de notre éducation. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elle va en accord avec les essais nucléaires. Non. Elle va en accord avec la pollution des mers. Non. Apprécie-vous tous les déchets dans l'atmosphère. Non. Sauvons la terre, sauvons la terre. Je crois en l'homme et l'homme comprend en sa planète. Yeah. La nature, c'est la vie, la vie n'est pas une conquête. Vous encore raser des forêts entières en ayant pris conscience que l'oxygène que l'on respire vient de l'arbre qui pousse dans la terre. Pourquoi les grandes puissances ne versent-elles pas une ronde pour les pays aux ressources vitales économiques bon au plus bas? Pourquoi l'armée continue ses essais nucléaires? Plus on le sait, tout vit dans les fonds des mers. D'abord un trou dans l'atmosphère, plus l'on respecte de l'environnement par les puissances qui détiennent le monopole de l'argent. L'industrie mondiale est coupable de l'usine nucléaire de Tchernobyl à la constante disparition de la mer d'Ara, de la forêt, de l'Amazonie. Alors putain d'économie qui régit la vie dans le pays. Réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elle va en accord avec les essais nucléaires. Non. Elle va en accord avec la pollution des mers. Non. Appréciez-vous tous les déchets dans l'atmosphère. Non. Sauvons la terre, sauvons la terre. Je crois en l'homme et l'homme doit croire en sa planète. Yeah. La nature c'est la vie n'est pas une conquête. Non. Le progrès n'est pas contrôlé, voilà pourquoi bientôt les chèques sur la planète, sur la planète, sur la planète.
Yeah. net. En guise de conclusion, le poisson prend la raison. Hasta une seule raison, exorciser les pépés et mes fêtes et nos enfants faire pour nous sans priorité. La polémie monétaire dit de la manière la plus sommaire. Ça cache de partout notre planétaire. Au nom d'un progrès, quand nous payons les frais, je vais donc exprimer un pessimisme viril. Afin que les noms sont détruits et perdus, soient pas obscurs pour les générations futures.
We can survive.
C'était Assassin et leur titre « L'écologie sauvant la planète ». Vous êtes toujours sur 48 FM dans l'émission Happy Hour. On parle aujourd'hui de l'écotourisme et de la fête de l'écotourisme. Mais avant de parler de la programmation, on va parler surtout d'Eric et de sa chronique qui veut nous faire un peu une surprise, j'ai l'impression.
Et bien voilà, nous sommes le 3 mai 2022 et je suis encore assis là au micro d'Happy Hour. J'ai une nouvelle fois failli dans ma conquête à des élections malgré ma promesse de chocolatine pour tous. Et pour ça, j'ai toujours qu'un pauvre verre d'eau pour essayer de me remettre. Alors ça va que pour rebondir, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Bon, en vrai, cela ne sert pas à grand-chose, parce que le plus intéressant, ce serait peut-être d'en avoir qu'une, mais qui fonctionne. Et c'est ainsi, mon arc en a plusieurs de cordes, et à défaut de toutes fonctionner correctement, ou même de fonctionner tout court, elles me permettent au moins de varier les plaisirs. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Si vous ne le saviez pas, je vous aurais au moins appris quelque chose. Et surtout à toi, Adèle, qui m'a pourtant mis autant de bâtons dans les roues que possible pour mon élection. Et pourtant, je défends les journalistes, et même plus, j'essaye de participer à un journalisme vrai, de terrain. Ainsi, j'ai réussi à obtenir une information de la plus haute importance concernant une tentative de rébellion, et n'écoutant que mon devoir de vous informer, je décidai de suivre cette piste. Le renseignement m'avait été fourni par une connaissance dont je tairai le nom, car pour moi, assurer la protection de mes sources est quelque chose d'irréfragable. Alors, je viens de découvrir ce mot dont je vous le place directement, comme ça, discrètement, l'air de ne pas y toucher. Donc, la protection de mes sources est quelque chose d'irréfragable. Que dis-je d'irréfragable? Et voilà, je vous le place même trois fois. Donc, d'indiscutable, et je veux dire même plus, d'irrécusable. Et en disant ça, je te coupe l'herbe sous le pied, Adèle. Parce que je le sens bien que si j'avais pu te mâcher le boulot en te délivrant mes sources, ça t'aurait bien arrangé. Mais je ne mange pas de ce pain au chocolat. Et sachez que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme me protège et est la base déontologique qui m'est donnée en tant que chroniqueur vedette de 48 FM. Bon, il se trouve que j'ai, au fond de mon jardin, une pie des plus bavardes, qui a laissé échapper entre deux médisances sur les hirondelles qu'une réunion des plus secrètes devait se tenir proche de Saint-Enimi au bord du Tarn. Alors pendant de longues secondes, peut-être 4 ou peut-être même 8 très longues secondes, je me suis posé la question de la légitimité dont je pouvais me prévaloir en la matière. Avais-je le droit d'utiliser ce renseignement? Alors j'ai jugé qu'un travail de chroniqueur m'y obligeait. Je me rendais donc avec des traducteurs chevronnés pour espionner et rendre compte de cette réunion. Alors c'est à l'abeille noire, vieille de 100 millions d'années, que revint, en raison de son grand âge, la gloire insigne d'ouvrir les débats. Particulièrement informé, et ayant la résistance des Cévennes chenillées au corps. Chevillées au porc. Non, chenillées au dard. Bon, bref, vous m'avez compris, l'abeille noire, qui sait forcément de quoi elle parle. Eh bien, elle évoqua dans un vrombissement fiévreux le réchauffement de la planète, le risque nucléaire, l'épuisement des ressources naturelles et la destruction de la biodiversité. Bon, un vautour fauve venu des gorges de la Jonte déclara de façon tout à fait convaincante: notre nid brûle et nous regardons ailleurs. Bon, toute ressemblance avec un ancien discours présidentiel serait fortuite. Une assemblée de coucous, de chouettes et d'hirondelles coucoulèrent, ululèrent, gazouillèrent de concert pour l'encourager. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Il nous faut prendre notre destin en patte, renchérit un vieux loup. Exactement, il n'y a aucune raison que les humains soient les seuls à décider de l'avenir de notre planète, alors que nous sommes plus nombreux que, brama un cerf énervé. Mais la réunion vira vite à la cacophonie, à cause de vieilles querelles, de divergences d'opinions et d'intérêts contradictoires. Ainsi, les brebis ne voulaient pas se retrouver à côté des loups, on les comprend, les rapaces étaient mal vus par les vipères, que les campagnols tentaient de fuir au maximum, alors que les truites, de leur côté, faisaient valoir leur droit au silence. L'ambiance devenait aussi tendue que mon arc, et un accord sur la marche à suivre était loin d'être trouvé. Ils décidèrent alors de reporter les décisions de leur réunion à une date ultérieure. Donc voilà ce que c'est qu'un vrai boulot de journaliste de terrain, et donc l'importance de la liberté de la presse. Ainsi, mes concitoyens, vous avez cette révélation de ce qui s'est passé sur notre territoire et des potentielles conséquences phénoménales sur l'avenir du monde, si nous attendons pour agir que les animaux puissent enfin s'entendre pour sauver notre planète.
Magnifique, magnifique. Je pense que du coup, on va aller à Saint-Enimi à la fête de l'écotourisme, parler avec certains animaux, avec la LEP justement. Ils vont peut-être nous donner plus d'informations.
C'est des très bons informateurs.
On va parler donc enfin de la programmation de cette fête de l'écotourisme. Donc au niveau national, c'est la 7e édition, mais donc à Saint-Étienne, c'est la première. Mais juste une question avant, pourquoi Saint-Étienne a décidé cette année de participer à cette fête ?
Alors, en fait, quand je suis arrivé, je me suis aperçu que donc Saint-Étienne avait ce label Station Verte, mais que depuis un certain nombre d'années, il n'y avait pas forcément eu de partenariat et d'échange avec, ce label. Donc moi, en tant que nouvel interlocuteur, je me suis présenté et puis ils m'ont un petit peu expliqué ce qu'ils faisaient au cours de l'année, dont cette fête de l'écotourisme. Et après, en discussion avec la commission animation, on a décidé qu'on allait y participer cette année.
Alors, on va rentrer dans le détail. Ça commence dès demain, mercredi, donc 4 mai.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on va retrouver pour cette première animation de la fête ?
Alors demain, on vous propose une visite guidée en forêt domaniale des Gorges du Tarn avec l'ONF pour un petit peu découvrir la forêt qui nous entoure ou la redécouvrir pour certains. Sachant que je le rappelle, je ne sais pas si je l'ai dit encore, mais toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous.
Ah non, tu l'avais pas dit, mais ok.
Et c'est important de souligner quand même.
Oui. Oui, parce que l'objectif, c'est vraiment que ça soit pour tout le monde,
et
pour la famille, mais aussi pour tout le monde, quoi.
Oui, vraiment, vraiment, allez-y, tous.
Ok. Il y a pas mal d'activités qui se passent au domaine des Boissés, notamment avec l'ALEP, si je ne me trompe pas.
Oui.
Pourquoi le domaine des Boissés, particulièrement ?
Alors ça, après, c'est en discussion avec différentes associations et, que j'ai pu contacter. Beaucoup m'ont proposé de faire des animations en Boissés. Et il est vrai qu'en y repensant, c'est un lieu vraiment atypique. Et effectivement, comme le disait Charles tout à l'heure, en antenne, je crois.
En antenne.
C'est, oui. C'est à la fois sur le Causse, mais aussi un point de vue sur les gorges. Donc c'est vraiment super. Quoi.
Oui, c'est ce qui est intéressant, en tout cas pour vous aussi, en tant qu'expert.
Oui, il y a ça. Puis il y a les commodités pour arriver, stationner. C'est quand même pas mal que d'aller... on pourrait imaginer certains sentiers, mais des fois c'est un peu difficile pour accueillir du public sur certains secteurs qui sont tout aussi intéressants. Mais le domaine des Boissés, c'est vrai qu'il ouvre l'espace des gorges là, qui est face à nous, c'est magnifique. Et puis en même temps, voilà, ce côté Cosnard, avec ce village typique, c'est quand même quelque chose de vraiment atypique. C'est un site Natura 2000 aussi, un site espace naturel sensible. Pour le département, enfin voilà, c'est quand même quelque chose d'assez représentatif des villages Cosnard et de la biodiversité qu'il y a autour de tout ça, quoi.
Mais justement, site Natura 2000, aussi au niveau du département, c'est un domaine protégé. Qu'est-ce que ça consiste exactement pour le domaine des Boissés et pour les associations telles que les vôtres au niveau de la biodiversité et de la protection, quoi?
Les sites Natura 2000, généralement, ils sont mis en place pour qu'on puisse jongler entre la conservation des activités humaines et la biodiversité qui existe. Voilà. Donc ça permet de conserver l'état des pelouses, par exemple, pour le domaine de Boissé. Et après, l'espace naturel sensible, c'est une labellisation du département. Il y a eu un livret d'édité l'année dernière sur ce site, spécifique vraiment au domaine des Boissés, quoi.
D'accord. Au niveau du domaine de Boissés, donc il y a pas mal d'activités. Est-ce qu'on peut venir un peu sur ces activités ? Je ne sais pas si c'est dans la semaine, si c'est après, quand est-ce
Alors,
que ça a
donc
lieu ?
Effectivement, il y a la balade en forêt de demain qui aura aussi lieu mercredi 18 mai. On a aussi une balade découverte du domaine de Boissés, donc le 11 mai à 14h, en partenariat avec l'association Copage. Association qui, justement... Natura 2000 autour de Boissés. Ensuite, on aura, avec Charles, une matinée découverte des oiseaux au niveau du domaine de Boissés aussi, le 25 mai. Et on aura aussi deux soirées observation des étoiles. Donc le 28 mai et le 4 juin, en association avec l'association Astrolab. Et le 28 mai, il y aura aussi la présence du PNC, donc du Parc National des Cévennes, avec l'intervention de M. Scherer, qui viendra présenter la réserve internationale du ciel étoilé.
Mais sur les balades, je suppose qu'elles sont assez courtes, si elles sont ouvertes à tout le monde.
Souvent, c'est des balades sur la demi-journée, effectivement, le matin, sur l'après-midi.
Pas trop dénivelé
Alors, quand on est à Boissés et qu'on descend pas, ça va. Après, là, pour le coup, celle de demain, on commence un petit peu plus bas, Donc monter, plus après redescendre, ça fait environ 250 ou 300 mètres de dénivelé de mémoire.
Ça va, Eric?
Oui, non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est que. Non, mais
effectivement, c'est bien de préciser, oui.
Oui, bien sûr. Je sais qu'Eric est un grand sportif.
Ça grave un petit peu dans le poing.
Et au niveau de la LEP, les animations que vous proposez, donc il y a deux animations, c'est ça, avec la LEP? Tu peux nous en parler un peu plus précisément? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va retrouver pendant ces animations?
Eh bien, enfin, l'objet pour moi, c'est de partager justement sur ce patrimoine naturel qui est là et qu'on regarde pas ou peu, ou pas assez en tout cas. Et du coup, et voilà, essayer d'amener une ouverture un peu à ces sujets-là. Ça passe un petit peu par les immanquables. Je suis obligé de parler de certains sujets. Bah, par exemple, j'ai prévu de parler des oiseaux. Forcément, je vais parler des rapaces parce que c'est un petit peu ce qui c'est un bon sujet d'accroche, quoi. Ils ont des capacités formidables et du coup, je vais certainement passer un peu de temps, même si j'ai pas encore tout à fait ficelé le programme. Je vais passer un petit peu de temps là-dessus. Et puis après, je dirais qu'au gré de la balade, on profite un petit peu de ce qu'on va pouvoir observer, entendre aussi, parce que ça, c'est important. Généralement, quand on aime, on a envie de protéger. Et du coup, moi, mon objectif serait qu'à la fin de cette sortie, les gens comprennent un peu plus de choses pour aimer un peu plus et pour... protéger à leur échelle ce qu'ils peuvent, voir ce qu'ils sont en mesure de faire par rapport aux menaces, par exemple, qui peuvent toucher certaines espèces ou des choses comme ça, quoi.
Est-ce qu'en Lozère, concernant les menaces, que ça soit, sur la biodiversité en général, est-ce qu'on est un peu préservé parce qu'on est un département quand même assez rural ou malheureusement, non, comme partout ailleurs, il y a beaucoup d'espèces menacées?
On a de la chance, hein, quand même, parce qu'on vit dans un très beau département, mais il faut quand même toujours être très vigilant, parce que des bêtises peuvent arriver de n'importe où. Hein. Des accidents, des mauvaises pratiques, des choses comme ça. On n'est pas exempt de toute pollution.
Oui. Justement, la randonnée, la balade en général, on se dit que c'est quand même écotourisme, hein, c'est du tourisme vert, mais on se rend compte que pas vraiment finalement. Peut-être que toi tu le remarques, je sais pas. C'est aussi une sensibilisation de dire c'est ok, on est randonneur, on marche. Il y a quelques gestes quand même à savoir, quoi.
Oui, moi je m'alerte un petit peu sur certaines activités de pleine nature, effectivement. La fréquentation des cours d'eau l'été, des fois ça me fait un peu peur pour les cours d'eau.
Qu'est-ce que ça peut engendrer sur les cours d'eau, justement, tout ce monde?
Si on prend l'axe du Tarn, qui est bien connu, même par tous les Lozériens, pour aller se baigner, il va y avoir pas mal de remue-ménage, en fait, même dans le lit de la rivière, puisque construction de petits barrages, donc en fait, on dérègle un peu tout l'habitat naturel de ce cours d'eau, et puis après, il va y avoir aussi tous les problèmes qui sont mal quantifiés, mais qui peuvent être liés aux crèmes solaires ou des choses comme ça.
Oui, ça, on n'y pense vraiment pas du tout, mais la crème solaire... qu'on met sur le corps, ça pollue
On le mesure pas pour le moment, mais effectivement, on peut se douter qu'il y a un impact là-dessus. Les baignades, des fois, elles sont restreintes par le fait qu'il y ait, mettons, des cyanobactéries ou des choses comme ça. Mais effectivement, c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on soit quand même vigilant pour continuer d'accueillir, mais dans de bonnes conditions et en préservant la plus grande richesse qu'on ait, quoi.
Toute la fête de l'écotourisme, c'est évidemment basé aussi là-dessus, sur préserver la nature et dire aux touristes et aux habitants aussi, on fait attention. La fête se termine le 15 juin, c'est ça? Alors là, c'est un petit peu différent, c'est avec l'école de Vannerie.
C'est ça, c'est avec l'école lausanne de Vannerie et des arts végétaux qui proposera un atelier découvert de la Vannerie, où une après-midi... Et différentes personnes qui y seront pourront découvrir ce qu'est la vannerie lausérienne et pourront repartir avec ce qu'ils ont pu créer lors de cet atelier.
C'est des animations qui sont gratuites et il faut s'inscrire quand même?
Alors pour toutes les animations, comme le disait Charles tout à l'heure, on essaye de faire ça dans un groupe restreint, justement pour ne pas déranger, simplement. Et donc, réservation obligatoire et pour pouvoir participer à toutes ces animations.
Les réservations se font sur à la mairie, à l'office de tourisme.
Alors, à la mairie, directement sur le numéro de la mairie ou sur mon adresse mail, je vais la donner là maintenant. hugo.metais.cgtc@orange.fr ou alors sur mobile directement au 06 75 41 44 39.
Oui, Eric.
Non, c'est pour savoir, est-ce qu'avec en lien avec le Tarn, il y a des sorties ou pas du tout?
Alors, le long des berges du Tarn, il y aura plusieurs sorties. Charles, notamment, fera une sortie dédiée sur les reptiles le long des berges du Tarn.
Ouais.
On aura aussi...
Qu'est-ce qu'on a comme reptiles?
Le choix des gorges... Enfin, la proximité des berges, c'est pour cibler notamment des serpents comme la couleuvre vipérine. Bien souvent, elle est prise pour une vipère, mais elle est tout à fait inoffensive. Et c'est un des serpents qui est certainement le plus facile à repérer parce qu'il passe beaucoup de temps dans l'eau, qu'on le voit facilement nager. Et on va se donner les moyens d'essayer de la trouver. C'est pas garanti, mais c'est ça le jeu.
C'est des animations, par exemple, comme les balades avec la lèpre, ça dure combien de temps à peu près?
On part généralement sur une durée de 3 heures, enfin... On va dire avec le temps d'accueil, plutôt 2h30 voilà, d'animation active, on va dire. Ouais.
D'accord. Ouais, Eric.
Ce qu'on disait, ouais, c'est l'importance du rôle de l'animateur, parce que je suppose qu'on n'est pas sûr à 100% de toujours voir les animaux qu'on veut voir.
c'est être animateur sur le terrain, c'est se confronter aussi à ce qu'on peut voir et ce qu'on ne peut pas voir. Savoir ramener de la matière pour avoir une animation qui soit suffisamment intéressante et que les gens repartent quand même s'il n'y a pas d'observation, avec une expérience supplémentaire. Et puis aussi, c'est des fois savoir rebondir sur un sujet, donc être très observateur de l'évolution du groupe, mais aussi de tout ce qui se passe autour de nous pour saisir toute perche tendue par ce qui nous entoure, quoi.
Parmi les gens que tu rencontres, les habitants et les touristes qui viennent à vos animations, est-ce que ce sont les plus jeunes, les adultes qui sont... Est-ce qu'il y a quand même une génération qui est plus intéressée que d'autres? Plus sensible, en tout cas.
Ouf. Ça, c'est pas facile à traiter comme question, parce que... Ouais, c'est même vraiment délicat. Je peux pas caractériser. D'accord. Ça facilement.
Ouais, je me demandais si les enfants, peut-être, étaient un peu plus sensibles que certains adultes, mais bon, peut-être pas, hein.
Sur la totalité des sujets qui sont traités, en fait, effectivement, des fois, il y a des sujets qui sont plus accrocheurs pour du jeune public, mais j'en sais rien, si on va sur des thèmes, on a eu fait sur le compost ou des choses comme ça, on touche un peu plus une autre génération aussi. Enfin, c'est très aléatoire, en fait.
Parce qu'il y a, c'est peut-être que le public, des personnes un peu plus âgées, c'est des personnes qui sont déjà sensibilisées, donc qui vont forcément être intéressées, alors que les plus jeunes, non, pas forcément.
Pas forcément. Enfin, là, par exemple, justement, ça fait... l'ALEP a toujours travaillé, par exemple, sur les animaux qu'on va classer dans les mal-aimés. C'est pour ça qu'on continue à travailler sur le sujet, notamment des reptiles, là. C'est que là, on sait que c'est des sujets... On peut avoir 80 ans et on n'y connaît pas plus qu'un enfant de 8 ans. Et du coup, le but de ces animations, c'est que... On essaye de partager sur ce sujet pour que ce soit un petit peu mieux connu, pour que ce soit plus considéré et qu'on fasse pas avec les fameux on dit que et qu'on aille vraiment sur du concret. Et voilà. Enfin.
Après, oui, après, peut-être que de nos jours, les enfants sont peut-être plus amenés à être en contact avec ce genre de sujet, peut-être notamment à l'école.
Ça, c'est le gros de mon travail quand même, c'est de travailler auprès des scolaires. Donc, effectivement, c'est une... Voilà, moi, j'ai d'un côté des animations grand public, mais un peu minoritaires sur les périodes de vacances, souvent. Et puis, d'un autre côté, un gros axe scolaire, école. Et du coup, effectivement, au cours de l'année, déjà en classe, on travaille bien sur ces sujets, sur un tas de sujets, en réalité. Mais ils sont globalement assez sensibles. Et puis, en fait, ils sont déjà... je trouve généralement, quand on va dans des classes et qu'on parle de sujets biodiversité, on tombe sur des classes qui ont une culture biodiversité assez, assez excellente, quoi.
Ouais.
Même des fois, c'en est étonnant, quoi.
Ouais. On va faire une petite pause musicale avec une chanson, enfin plutôt un chanteur que tu voulais absolument entendre, Eric.
Oui.
Bobby Lapointe qui fête, enfin qui devait fêter plutôt, pardon, son centenaire. On va s'écouter une chanson par contre que j'ai choisie, que j'ai écoutée en boucle quand j'étais petite. Voilà, Aragon et Castille.
Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait le gaz, citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat poil au bras, mais chez mon pâtissier il n'y en a plus, c'est vendu. C'est pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui. Et j'ai mangé pour tout dessert du camembert. Le camembert c'est bon quand c'est bien fait, vive l'amour. À ce propos, revenons à nos moutons. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Vendre des glaces est un très bon métier, poil au pied. C'est beaucoup mieux que marchand de mourons, pas d'abord. Marchand de mourons, c'est pas marrant. J'ai un parent qui en vendait pour les oiseaux, mais les oiseaux n'en achetaient pas. Ils préféraient le crottin de mouton. À ce propos, revenons à nos agneaux. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Mais la Castille, ça n'est pas l'Aragon. Ah mais non, et l'Aragon, ça n'est pas la Castille. Et la fille s'est passée de glace au citron avec vanille. Et le garçon n'a rien vendu, tout a fondu. Dans un commerce, c'est moche quand le fond fond poil au pied. À propos de pied, chantons jusqu'à demain. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron.
Et voilà, c'était Bobby Lapointe avec Aragon et Castille. On continue avec cette fête de l'écotourisme qui démarre demain. Et puis, donc tout le long du mois de mai jusqu'à mi-juin, c'est ça à peu près ?
Voilà, c'est ça le... Normalement, ça va s'étaler sur un mois et demi, et donc on aura environ une animation par semaine.
Une animation par semaine, et le 22 mai, il y a une fête, il y a une animation dans le cadre de la fête de la nature aussi.
Voilà, donc c'est une journée découverte naturaliste et géologique dans les gorges du Tarn, aux alentours de Castelbouc, qui est proposée en partenariat avec le CEN, donc le Conservatoire des Espaces Naturels, et l'association APHPL, qui est l'association paléontologique au plateau du Languedoc. Voilà, donc là, ce sera sur toute la journée, pour le coup. C'est la seule animation qu'on propose qui se déroulera sur la journée, mais aussi en partenariat avec deux associations. Et donc voilà, ce sera une petite balade découverte, notamment au niveau de la géologie et des grottes de Castelbouc. Et sur les berges, pareil, pour découvrir la faune et la flore qui peut nous entourer.
C'est une fête aussi, je suppose que c'est un peu le but, que des touristes viennent, mais pas seulement juste pour passer et dire coucou, j'aime bien la Lozère, mais peut-être pourquoi pas s'installer aussi sur le département.
Oui, alors si à terme, effectivement, il y a 2-3% des touristes qui sont là, qui s'installent dans le département, effectivement, ce serait une excellente nouvelle. Parce qu'on le rappelle, mais notamment au niveau de Saint-Denis des Gorges du Tarn, 70 ou 80% des habitations sont des habitations secondaires, et à l'année la population sur la commune Gorges du Tarn, je crois qu'on devait être 1000 habitants à l'année, plus ou moins, et après l'été on doit tripler, quadrupler, si ce n'est plus.
D'accord.
Donc effectivement, oui, ce serait une très bonne chose si à terme les touristes qui tombent amoureux du territoire restent pour la suite de leur vie.
Voilà, le message est passé. Parmi les autres animations, il y a d'autres choses aussi
Alors après, il nous reste une animation qu'on n'a pas évoquée. C'est là aussi une balade géologique avec la PHPL pour la découverte du Puèche d'Alèche, donc sur le Cosmé-Jean. Donc c'est pas forcément sur le territoire de la commune, mais voilà, quand l'association m'a proposé, on a discuté, je me suis dit pourquoi fermer une animation qui n'est pas sur le territoire alors que ça pourrait intéresser un tas de gens. Donc voilà, ce sera le 11 juin et pareil, ce sera de 14h à 18h avec un départ au niveau de Saint-Enémy.
Ok. C'est des animations, donc on l'a dit, grand public et tout ça, mais est-ce que le but aussi, c'est de proposer petit à petit, avec cette fête de l'écotourisme, chaque année cette fête, et pourquoi pas après se spécialiser dans d'autres animations et tout ça ?
Alors le but, c'est de pérenniser cette manifestation. Donc là, comme on a pu le dire depuis tout à l'heure, c'est la première édition. Donc après, effectivement, c'est de proposer peut-être d'autres animations l'année prochaine, peut-être plus se concentrer sur un sujet ou pas, en fonction des associations qui nous accompagneront aussi par la suite sur ce projet.
Parce que cette fête de l'écotourisme, c'est vraiment... vous avez le label de Station Verte, donc vous pouvez faire partie de cette fête, entre guillemets.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est vous qui choisissez de A à Z.
Le label nous dit... c'est de temps à temps, et après, c'est à chaque commune, de son côté, de faire les démarches nécessaires pour rentrer en contact avec différentes associations et voilà, du local, quoi.
Ok. Est-ce que on parle avec l'écotourisme pour les touristes et pour les habitants, mais comment on fait au quotidien, parce que pour cette fête-là, évidemment, on va intégrer les gens, du coup, dans cette démarche-là, comment on fait au quotidien, par exemple, avec l'ALEP, pour sensibiliser tout le temps, au maximum, les gens qui habitent sur le territoire ?
Et en fait, finalement, je me rends compte que des sorties, même par le biais d'offices de tourisme ou quoi, ça attire aussi des gens, des locaux, pas mal. Et puis, par le biais de travaux, notamment là, on est en réflexion sur des sujets, sur la thématique de l'eau en Lozère. Il y avait déjà eu un volet 1 qui s'appelait « En Lozère pour l'océan », qui était... c'était un appel à manifestation du réseau d'éducation environnement de la Lozère, qui est maintenant labellisé CPIE, qui, par exemple, proposait à des animateurs de réussir à créer dans une commune ou plusieurs villages une petite dynamique autour d'un sujet qui interpelle les gens par rapport à la rivière. Et puis de réussir, une exposition avait été créée, il y a une exposition permanente à la Canourgue, enfin de créer des petites dynamiques dans les villages, que quelques acteurs s'en saisissent pour faire vivre en fait, qu'il y ait un noyau solide dans un village qui se saisisse d'un sujet, qui soit un petit peu en alerte par rapport aux thématiques de la rivière, mettons, là c'était le cas. Et là, on va relancer ça pour justement essayer de donner des dynamiques dans les villages pour les gens qui y habitent à l'année, réussir à, en tout cas, à interroger sur des sujets qui peuvent poser problème dans différents secteurs de la Lozère, quoi.
Il y a aussi l'Atlas de la biodiversité.
Communal
que vous faites, ça aussi, au final, ça rentre un peu dans ce cadre-là ou c'est différent ?
Alors, les atlas de biodiversité communale, je dis les parce qu'il y a pas mal de communes qui sont concernées. Ça a été favorisé par le PNC, je pense, sur leur territoire, par le Parc national des Cévennes. Il y en a plusieurs qui sont en cours. Maintenant, il y a le PNR de l'Aubrac aussi. Sur le territoire du PNR, il y a plusieurs communes qui se sont lancées aussi. Donc c'est effectivement une partie de mes missions aussi sur l'année, et à mon collègue qui est plus sur le volet science, parce que c'est le but justement, ces ABC, comme on les appelle, c'est améliorer la connaissance en biodiversité sur une commune, et puis aussi vulgariser l'information, la proposer aux gens qui se saisissent de ce sujet, proposer pourquoi pas des... moi, dans le cadre de mes animations, elles ont deux buts, donc il y a le but de sensibilisation, mais aussi les faire participer à de la montée en connaissance sur la commune, puisque les données qu'on récolte pendant les animations, elles vont servir à alimenter en fait les bases de données scientifiques.
Il y en a des ABC, c'est ça, dans les gorges du Tarn, entre Saint-Enémy, tout ça, il y en a ou pas ?
Il y a Hispaniac.
Hispaniac.
Ouais, qui est en démarche. Il y a presque 10 jours maintenant, on a fait une animation sur Marais Tétard, elle s'appelait, sur le Causse de Sauveterre. On a effectivement bien pris la pluie. C'était très thématique, il faisait très froid, mais il y avait une dizaine de motivés pour aller découvrir la biodiversité des Lavrognes. Et en particulier, les amphibiens.
Donc les amphibiens dans les gorges du Tarn, c'est Enfin, c'est un sujet qui est très important, par exemple. Enfin, je suppose que vous, est-ce que vous faites les animations en fonction des, de la biodiversité du territoire ?
Oui, des fois en fonction de nos envies, en fonction de thèmes qu'on aime ou qu'on maîtrise, en fonction des envies aussi des communes, par exemple. Enfin, voilà, c'est... Il y a rien qui n'est pas important, en fait. C'est juste qu'on va aussi... Enfin, moi, les amphibiens, ça me plaît, et j'aime bien animer ce genre de thématique. Du coup, de temps en temps, je le propose, et il y a des communes qui me répondent positivement, en disant, bah ouais, on y va, on fait ça, et...
Vous voilà. En avez vu un petit peu, du coup, là?
Ouais. Bah, beaucoup de larves, hein, des têtards, et puis on a vu un adulte de pélodite ponctué.
D'accord. Qu'est-ce que, ça ressemble à quoi, juste?
On l'appelle la grenouille persillée. Donc c'est une toute petite grenouille qui fait, j'en sais rien, 4 cm peut-être, à tout casser, brune avec des taches vertes.
Ok, super. On va rappeler du coup quand même... Ah, Eric, tu as une question?
Non, mais par contre, pour revenir justement sur la fête de l'écotourisme et sur la ville de Saint-Émy, est-ce que justement les professionnels du tourisme, est-ce qu'ils sont impliqués? Est-ce que vous êtes allé les voir ou est-ce que pas du tout, pas vraiment?
Après, professionnels du tourisme au niveau de Saint-Émy, ça va être beaucoup... location de canoë et kayak, choses comme ça, sport de pleine nature. C'est vrai que là, pour cette première édition, on ne s'est pas tourné vers la découverte des sports de pleine nature qui sont aussi un volet de la fête de l'écotourisme, mais plutôt sur la sensibilisation à l'environnement et choses comme ça. Donc pour le coup, pour cette première édition, non, mais dans le futur, pourquoi pas, oui, tout à fait.
Super, ben on va rappeler quand même la fête de l'écotourisme, c'est de quand à quand?
Alors c'est à partir de demain et jusqu'au 15 juin.
Avec une dizaine d'animations.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Ok, super. Et bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous deux, à Charles et Hugo, d'être venus parmi nous à l'émission Happy Hour. Merci à Eric, chroniqueur vedette de cette émission. On ne l'oublie pas. Et vous pouvez retrouver Happy Hour en podcast sur 48FM. Et l'émission sera rediffusée jeudi à 19h. On termine cette émission avec une chanson. J'étais obligée de mettre du trio pour finir en beauté cette émission sur l'écologie et le tourisme. Allez, on écoute Greenwashing de Trio. Salut.
On veut du green, on veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer,
on veut du...
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green.
Et cache les galets sous le sable. On veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables. On voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon.
On veut du green.
On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique.
On veut du green, 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 green washing.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 green washing.
On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques, des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques,
des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert,
mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire.
On veut du green, 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 green washing. On veut du green, 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 green washing.
On veut la mer, on veut l'été, on veut bronzer.
On veut green, 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 green washing.
On veut des...
machine.